Donc j'attaque sur cette proposition d'interprétation de l'Odyssée, qui sera la première sur trois. On a la chance d'avoir trois séquences sur l'Odyssée. On va côtoyer ce texte lentement, et je crois que c'est un texte qui l'appelle, cette lenteur. C'est la première fois que je vais faire trois séances sur un texte. L'an dernier, j'avais proposé deux séances pour chaque texte, donc on en avait lu trois. Cette année, on va en lire trois, mais avec trois séances sur l'Odyssée, deux séances sur Saramago et une séance sur Maïlis de Carangal. C'est pour ça que j'ai pris un petit livre de Maïlis de Carangal. Lire l'Odyssée, c'est d'abord peut-être produire une sensation de retrouvaille. Même si c'est la première fois qu'on lit ce texte, quand on l'aborde, on a l'impression qu'on le connaît déjà. Et on le connaît tous. Même très mal. J'en ai encore fait l'expérience il n'y a pas très longtemps avec des élèves avec lesquels je travaille. Ils n'ont pas lu l'Odyssée, mais ils en ont entendu parler un peu en sixième. Et puis, ils connaissent tous Ulysse 31. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé aussi. C'est par le dessin animé. Donc Ulysse 31, ce n'est pas parce qu'il est toulousain, c'est parce qu'il vit au 31e siècle. Donc c'est un Ulysse projeté dans le futur. Et le générique de l'émission, c'est, ça c'est inoubliable pour moi, si vous voulez, c'est Ulysse revient. Vous voyez l'ancrage. Et ensuite, c'est Ulysse revient, il le faut pour son destin. Je ne commenterai pas les vers de Mirliton, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que Ulysse, c'est une tache d'huile dans notre culture. Ça s'est répandu partout, là où il y a des trous. Et des trous, il y en a partout. Donc, on connaît tous Ulysse de loin. Là, j'avais envie qu'on se rapproche. L'impact, il est énorme de cette œuvre. Dans nos consciences, dans les œuvres d'art, dans la pub, dans les blagues, il est partout. Même si on s'en rend pas compte. On a l'impression qu'on retourne au commencement quand on approche l'Odyssée d'un peu plus près. On a l'impression qu'on va à la naissance de notre culture. C'est comme ça que c'est présenté par l'Académie, par l'enseignement, par certaines institutions culturelles ou médiatiques. Et j'ai envie qu'on interroge cet effet de commencement, cette impression qu'on retourne au début de la culture européenne. Parce qu'évidemment, comme tout fondement dans une culture humaine, c'est un fondement mythique. Il n'y a jamais un point de départ à une culture, et même peut-être pas à l'univers. La théorie du Big Bang, elle est donc qui serait un point de départ du tout, et même celle-là, elle est interrogée. Donc on peut s'imaginer qu'à l'époque où Homère a-t-il existé, mettons que oui, pseudo-Homère, à l'époque où il se met au travail pour rédiger l'Odyssée, il y a des centaines de textes qui ressemblent à ça. Ou des centaines de récits oraux qui ressemblent à ça, puisqu'on est à un moment de bascule entre oral et écrit. Donc c'est la première chose qui fait que ce fondement est un fondement mythique. Il n'y a certainement pas qu'une origine. Les gens qui travaillent sur l'Odyssée, par ailleurs, ils montrent qu'il y a peut-être eu plusieurs écrivains, il y a peut-être plusieurs styles à l'intérieur de l'Odyssée. Les grands connaisseurs du grec peuvent faire ce genre de nuances. Bon. Et puis, surtout, ce qui m'a littéralement fasciné en replongeant dans ce texte, c'est de vraiment réaliser à quel point l'Odyssée pose les bases d'une culture et en même temps, dans le même temps, en doute. Doute de ses bases, les interroge. Donc s'il y a un fondement qui est présent dans l'Odyssée, c'est une sorte de fondement tremblant. S'il y a une culture qui s'avance, c'est une culture qui à la fois s'avance et doute d'elle-même. Et c'est une très grande émotion d'avoir cette impression de remonter à un point de départ, et au lieu de rencontrer ce qui pourrait s'appeler une identité nationale, par exemple, on rencontre un orgueil et un doute, en même temps, d'une même salle. Et je trouve que cette dialectique, une manifestation de bonne santé, en fait, de vigueur. Plus de 12 000 vers d'un coup, c'est moins que l'Iliade, qui est le frère jumeau aîné de l'Odyssée, mais c'est quand même 12 000 vers, 24 chants, c'est une moyenne de, je vous laisse calculer combien de vers en moyenne par chant, une masse imposante en tout cas. On assiste, semble-t-il, là encore c'est un effet mythique, mais à la création d'un genre qui s'appelle l'épopée, et dont on va beaucoup parler aujourd'hui, ce que l'Iliade avait déjà posé de façon majeure. Ces deux textes sont des épopées. Et pourtant, ce genre majeur, le genre élevé, le genre aristocratique, celui qui parle d'aristocrate dans une langue aristocratique, il est immédiatement questionné par le texte lui-même. Il y a un accord majeur qui se fait entendre et des centaines de petites dissonances qui viennent le grignoter, le retourner, l'interroger. Effectivement, c'est une épopée qui confronte un roi à l'errance digne d'un vagabond. C'est la première figure qui se dégage de ce texte. Au fond, le personnage principal de l'Odyssée, contrairement à ce que le nom dit, Odysseus, c'est Ulysse. Le personnage principal de l'Odyssée, c'est peut-être pas Ulysse, c'est peut-être la mer. Cette Mare Nostrum, cette Méditerranée qui va nous occuper tout le semestre. Tellement cette mer s'affirme comme le lieu de l'humiliation absolue, qui met un roi par terre, comme elle semble être vraiment en écho aujourd'hui sur les images d'actualité. C'est la même Méditerranée qu'on retrouve, celle qui bouscule les hommes comme un jeu de quilles, qui les fait valser sur leurs pieds. On ne peut pas se tenir debout dans l'eau très longtemps. Donc c'est ça que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est essayer de comprendre en quoi est-ce qu'on peut faire une épopée de l'errance. Qu'est-ce que c'est qu'une épopée de l'errance? L'Odyssée se présente comme ça, c'est comme ça qu'on va essayer de l'aborder aujourd'hui. La prochaine fois on verra que c'est une sorte de traité de maintien camouflé, traité de maintien pour aristocrates. Une liste de bonnes manières en fait, à l'usage des aristocrates. Et puis la dernière séance, on travaillera sur la question du désir frustré. Une approche qui peut sembler comme ça assez psychanalytique de l'Odyssée, qui sera en partie psychanalytique, mais pas seulement. Le désir étant un des objets privilégiés de la psychanalyse, mais d'autres discours peuvent s'emparer de ce thème. Voilà, donc je vous propose qu'on travaille de cette façon-là aujourd'hui, qu'on essaie de voir qu'est-ce que c'est qu'une épopée, et qu'est-ce que c'est que cette épopée-là qui fait de l'errance une épopée. Comment est-ce que c'est possible? Une épopée, on peut dire que c'est d'abord le chant d'un héros. On va partir de ça. Je vais vous expliquer comment j'en arrive à cette formule, test d'équation, presque, épopée égale chant d'un héros. On dit souvent que l'Odyssée, c'est le premier roman. Ça, c'est un anachronisme. Techniquement, le roman n'existe pas. Il y a quelque chose dans l'Odyssée qui nous fait songer au roman, parce qu'on est complètement culturellement pris dans cette forme. Mais le roman n'existe pas à l'époque d'Homère. Homère ne peut pas se lever un matin et se dire, tiens, je vais écrire un roman. Par contre, il peut se dire, je vais écrire une épopée. Alors, qu'est-ce que c'est? On peut essayer de s'approcher de ce que c'est qu'une épopée par deux chemins. Le premier chemin, il est comparatiste, et le deuxième, il est étymologique. Comparatiste, ça veut dire quoi? Bon, étymologique, ça veut dire qu'on va regarder la racine du mot, c'est voir ce qu'elle nous apprend sur le contenu de ce mot. Comparatiste, qu'est-ce que je veux dire? Quand je dis qu'on peut emprunter un chemin comparatiste, je veux dire qu'on va essayer de regarder ce que font les spécialistes, hein, toutes les épopées connues, et chercher tous les textes qui s'auto-désignent comme épopées, et chercher ce qu'il y a en commun entre ces textes. Et se dire, bah, du coup, une épopée, c'est les points communs entre tous ces textes. Donc on compare. Et cette méthode comparatiste, elle nous en apprend beaucoup sur le thème des épopées, sur ce dont il est question dans une épopée. La tradition, elle montre qu'une épopée, ça rapporte les hauts faits d'un héros. Il faut un héros, il faut des exploits, des gestes extraordinaires, inhabituels, d'un héros ou parfois d'un collectif. D'un collectif, mais qui se désigne alors comme peuple, comme une unité politique. C'est plus rare, et on y pense moins quand on pense au terme d'épopée, qu'on sait un petit peu ce que c'est, mais ça existe. Homère donne les deux exemples. L'Iliade, c'est typiquement l'épopée d'un peuple, à travers ses champions, les grands combattants, les grands militaires que sont Achille, Ajax, Patrocle, Ulysse, qui est déjà présent dans l'Iliade. Donc les Achéens, les Grecs, proto-Grecs, les Achéens, se définissent comme peuple contre un autre peuple, les Troyens, ou les Iliens, puisque l'Iliade vient de Ilion, le nom ancien qu'on donnait à Troie. L'Iliade, c'est le chant d'Ilion, la geste d'Ilion. Donc l'Iliade, c'est plutôt ce genre d'épopée, l'épopée d'un peuple, d'un collectif, et l'Odyssée, c'est l'épopée d'un personnage. Alors, c'est intéressant déjà, ce passage. Pourquoi est-ce qu'Homère a eu envie de faire d'abord l'épopée d'un peuple, puis l'épopée d'un personnage? Qu'est-ce qui se passe? Il a vieilli, il s'est mis à s'interroger plutôt sur l'intériorité, la singularité. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est intéressant. Et pourquoi il a choisi Ulysse? Il avait plein de héros devant lui, possible. Il aurait pu choisir Achille, il aurait pu choisir Patrocle. Il a pris Ulysse, pourquoi? Il aurait pu prendre un Troyen. Il a pris un Grec, un Achéen. Bon, quoi qu'il arrive, qu'il s'agisse d'un peuple ou d'un individu, l'épopée raconte des exploits, des actes extraordinaires, qui sont souvent menés par des aristocrates, souvent lié à une situation guerrière, la guerre étant le lieu où on peut s'illustrer, c'est-à-dire accomplir ces gestes extraordinaires. Et puis il y a un autre trait, disons, définitoire, c'est une longueur conséquente. Le récit de gestes illustres, il est long. Ce n'est pas des nouvelles, des épopées. Quand Hugo écrit « petites épopées », c'est déjà un travail sur la tradition. Donc il y a la guerre comme action fréquente à l'intérieur de l'épopée, mais ce n'est pas systématique, il y a d'autres types de scènes récurrentes. Par exemple, la descente aux enfers. Si vous voulez des épopées, pas seulement grecques, hein, mais indiennes, tartares manchous, vous vous baladez dans les cultures humaines, vous vous rencontrez très souvent dans ce qui s'apparente chez eux à des épopées, une scène de descente aux enfers, et il y en a une dans notre Odyssée. Il y a aussi un autre motif particulièrement récurrent et qui va nous intéresser en priorité, c'est le voyage en mer. Le voyage en mer n'est pas forcément une action guerrière, dans le cadre de l'Odyssée d'ailleurs, c'est après la guerre que commence le voyage en mer. Et ce motif-là, qui est récurrent dans les épopées, mais qui est souvent un court passage. Il y a une tempête, machin, puis après, finalement, il y a un monstre, et puis ensuite, il faut résoudre une énigme, et puis truc et machin, suite de péripéties. Ben, dans l'Odyssée, ce passage obligé, cette scène type du voyage en mer, enfle considérablement et devient, en fait, le cœur de l'intrigue. Donc voilà, l'Odyssée est une épopée de façon canonique. Elle répond aux critères de l'épopée au sens de son contenu narratif, mais elle affirme tout de suite cette spécificité de l'enflure du milieu marin, de la situation du voyage en mer. Voilà ce que nous apprend la méthode comparatiste, l'approche comparatiste. L'autre chemin que je vous proposais de prendre pour s'approcher de ce qu'est une épopée, c'est le chemin étymologique. Et là, on a une grande surprise. C'est que si on regarde l'étymologie d'épopée, nulle part il n'est question de guerre, d'exploit, de héros ou de voyage en mer. Ce que dit épopée, épos et poiein en grec, c'est épos, chant, parole, et poiein, tout simplement, faire, créer, produire. Ce que dit épopée, étymologiquement, c'est produire un chant. Poiein, c'est P-O-I-E-I-N. Poiein, c'est ce qui a donné poésie, hein. Poème. Le poème, au départ, c'est pas le chant des muses, un truc abstrait, c'est une fabrication. Poiein, créer, produire, étymologiquement. Alors, c'est drôle, cette discrépance, comme diraient les Anglais, cette différence entre ce que nous montre le contenu comparatif des épopées, des exploits, et ce que nous dit l'étymologie, produire un chant. Qu'est-ce que ça veut dire, cette espèce de non-rencontre apparente entre un contenu traditionnel et ce que nous dit l'étymologie? Alors, en effet, c'est un aspect absolument capital de l'Odyssée. Dominique vous a expliqué que pour moi, l'oralité avait une grande importance. Je tiens à ce qu'on travaille à cette question. L'oralité, aujourd'hui, c'est un enjeu central de la littérature contemporaine, le retour de l'oralité, on pourrait dire. J'ai vraiment envie qu'on ne perde jamais de vue cette question, que l'Odyssée est d'abord, à son origine, à sa préhistoire, un chant. C'est un mode de transmission de la littérature qu'on a un peu oublié, l'oralité. Il n'y a pas si longtemps encore, elle se pratiquait beaucoup dans cette abbaye. Les gens ont dû pendant des siècles davantage fréquenter la littérature par les oreilles que par la vue. On mangeait en écoutant des textes qui n'étaient pas toujours des textes sacrés. Hein. Rabelais a beaucoup été lu à voix haute, y compris dans les abbayes. Donc on n'est pas sûr qu'Homère ait jamais existé. En tout cas, il est à peu près certain qu'il a jamais chanté toute l'Odyssée d'un coup. Sauf à mourir comme Molière, pour d'autres raisons que le mercure dans ses costumes. D'épuisement pur, 12 000 vers, vous imaginez. Personne n'oserait faire ça en performance. Par contre, ce que nous lisons, c'est sans doute l'archive arrangée, la trace d'une compilation de poèmes qui était en effet appris par cœur et délivré par la voix, ici et là, par ce qu'on appelle des aèdes. A, E, accent en grave, D, E, S au pluriel ici. Les aèdes, c'est-à-dire ces chanteurs particuliers en Grèce, qui étaient à la fois chanteurs et auteurs de leurs textes, à la différence des rhapsodes qui interprétaient les textes des autres. Une différence qu'on appelle entre les auteurs-compositeurs et les interprètes, quoi, aujourd'hui. Donc Homère, un jour, s'est mis à la table pour fixer un chant. Et évidemment, en le fixant, il l'a transformé. Il n'y a jamais de transmission écrite qui soit parfaitement neutre. Je pense qu'il s'est dit, tiens, ce passage dont je me souviens, là, peut-être si je pourrais rajouter ces petites remarques, là, je vais peut-être remettre un monstre, et puis, ah tiens, ça sonne bien avec ça. C'est forcément laissé entraîner par cette technique transformatrice qu'est l'écriture. Mais n'oublions jamais cette espèce de proto-odyssée qu'il y a derrière, qui est une odyssée orale. Et on en a les traces. On peut faire l'archéologie de l'oralité dans le texte, notamment par l'aspect répétitif de sa forme. Alors, cette répétition, elle se marque, par exemple, par, tout simplement, le vers. Le vers, évidemment, c'est une technique musicale. C'est une manière d'attraper un public par le retour d'une séquence rythmique, comme le fait n'importe quel chanteur de variété. Je pense à Michel Delpech, c'est fugace. L'origine du texte d'Homère est en vers, qu'on appelle les hexamètres dactyliques. Je vais en parler un tout petit peu, je ne vais pas vous fasciner avec ça parce que c'est technique. Mais l'original est en vers, enfin ce qu'on peut appeler des vers. Un grec ne l'appellerait pas exactement comme ça, mais c'était des vers. Certaines traductions ont tenté le passage en prose, disant que l'hexamètre dactylique était un vers déjà très proche de la prose, puisqu'il est très long, qu'il y a tout le temps des enjambements dans tous les sens, et que donc ça se met à quand même beaucoup à ressembler à des phrases. Mais non. Et effectivement, le pari de Frédéric Mugler d'utiliser le vers de 14 syllabes est vraiment une manière de... Donc, c'est un vers très particulier, 14 syllabes, c'est devenu très rare dans l'histoire de la poésie. C'est une tentative de garder un vers tout en lui donnant cette souplesse que celle de la prose, la quasi-prose, quoi. C'est un vers long. En tout cas, à l'origine, c'est du vers, donc c'est une forme rythmique répétitive qui est destinée à charmer l'auditeur, mais aussi à aider la aide à retenir. On le sait tous, ça. Ulysse revient, il le faut pour son destin. Je n'oublierai jamais. J'avais tant de cerveau disponible, c'est vrai, mais c'est plus simple que n'importe quel paragraphe de Proust, même sublime. C'est la première forme de répétition, la plus évidente. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui ont à la fois cette fonction d'accroche du public et cette fonction mnémonique, et puis aussi cette fonction, il faut bien dire, de cheville, c'est-à-dire de boucher les trous un moment pour celui qui raconte. Et c'est ce qu'on appelle les formules. Il n'y a pas de littérature orale sans formules. Donc des petits groupes de mots indissociables et qui reviennent tout le temps. Chez Homère, le type de formule le plus célèbre et le plus fréquent, c'est ce qu'on appelle la fameuse épithète homérique, donc Achille au pied léger, typiquement. Oui. Achille, c'est jamais Achille dans Homère, très rarement. C'est toujours Achille au pied léger, Achille machin, Achille bidule. L'aurore, c'est jamais seulement l'aurore, c'est l'aurore au doigt de rose. Et ça, c'est partout. Et ça, c'est un truc pour quelqu'un qui est en train de composer une épopée qui est très très rassurant. Il sait déjà qu'il a 6 ou 8 syllabes de pavé dans son vers et qu'il va pouvoir avancer. Et puis, c'est une fonction mnémonique, c'est une fonction qui permet de retenir à la fois pour celui qui récite et pour celui qui écoute. La mer est inféconde, la mer, c'est la mer aux poissons. Alors, si je fais le bilan de ces deux approches, ben, j'en arrive au titre que je vous proposais tout à l'heure, le chant d'un héros. Si je rassemble ces deux approches, l'épopée, c'est un chant héroïque. Le contenu des épopées, tel qu'on le constate en comparant toutes les épopées, c'est de l'héroïsme. Et le contenant, c'est du chant, ou la trace d'un chant dans l'écrit. Et là, j'en arrive tout de suite à cette espèce de chose fascinante qui est, à mon sens, le propre de l'Odyssée, c'est-à-dire que l'Odyssée correspond à la fois très bien à cette définition qui vaut pour toute épopée, et en même temps, elle l'interroge radicalement. Alors qu'on semble être aux origines du genre, ce genre avance des caractéristiques tout en les mettant en doute, à la fois sur le plan de l'héroïsme et sur le plan de l'oralité. Ces deux choses sont réfléchies à l'intérieur du texte, interrogées, mises en crise, alors qu'on est, voilà, qu'on est face à un genre jeune. Si vous voulez, c'est un peu comme si les séries, qui est un genre dont on a vu l'éclosion de notre vivant, dès Twin Peaks, ou je ne sais pas quelle série maintenant déjà ancienne, s'avançaient tout en disant « je pose problème ». Alors c'est peut-être un trait plus grec qu'américain, d'avancer en disant « je pose problème ». Encore que. Alors, sur le plan de l'héroïsme, premier trait d'une épopée, le chant d'un héros. Sur le plan de l'héroïsme, bien sûr, l'Odyssée met en scène un héros indiscutable, et pourtant, ce héros se trouve aussi confronté à l'inaction absolue, à la dépression, risquons ce mot moderne, à la désorientation, en tout cas, d'où mon titre d'épopée de l'errance. Le deuxième verbe du premier vers de l'Odyssée nous dit « l'homme inventif qui erra si longtemps ». C'est Ulysse l'homme inventif. C'est plus le Ulysse conquérant de l'Iliade, fait tomber Troie par la force d'une action projetée. C'est celui qui erre. Premier. Deuxième verbe du premier vers. Le premier étant dis-moi. Donc la question du chant. J'y reviendrai tout à l'heure à ce dis-moi. Donc l'héroïsme est immédiatement questionné. L'oralité aussi. L'Odyssée est un texte qui s'interroge sur ce qui fait la qualité d'un chant. C'est pas juste un chant. C'est un chant qui nous dit. Qu'est-ce qu'un bon chant? Qu'est-ce qu'un chant vertueux? Quel risque y a-t-il à chanter? Ou à écouter un chant? Et cet aspect-là, il n'est absolument pas secondaire. Quelle est la scène la plus fameuse de l'Odyssée, celle qu'on connaît tous? C'est les sirènes. C'est les sirènes. C'est-à-dire un chant qui pose problème. Formidablement réinvesti au passage dans Harry Potter 4, je crois. Ou l'un des actes initiatiques auxquels est soumis ce jeune héros très odysséen, au passage, c'est d'affronter des sirènes. De très belles jeunes filles, alors que lui, il est au moment où la sève monte, qui sont en fait des tueuses, quoi. Bon, et on va voir que la scène des sirènes, c'est pas du tout le seul moment où le texte s'interroge sur ce qui fait une bonne voix. Cette question est centrale. Et elle concerne tout particulièrement Ulysse, qui est l'homme du beau discours. Mais un beau discours, est-ce que c'est forcément un bon discours? C'est la question de la rhétorique, en fait, qui est présente derrière. Le rapport entre la rhétorique et la morale, pour le dire un peu abstraitement. Donc c'est les deux aspects que je vais détailler en suivant. Je vais travailler sur la question de l'héroïsme et sur la question du chant, c'est-à-dire comment ces deux choses sont avancées par l'Odyssée et comment elles sont mises en question. Je voudrais risquer, avant de me lancer là-dedans, une petite interprétation de cette apparente étrangeté entre la définition, disons, traditionnelle de l'épopée et la tradition étymologique. Je te dis, la définition traditionnelle, c'est la geste d'un héros, des exploits, et la tradition étymologique nous dit qu'il s'agit juste d'un chant. C'est étonnant, cette différence. En fait, je crois qu'un des grands enjeux de l'Odyssée, c'est de faire du chant un exploit. Et c'est là que nos deux approches de l'épopée ont à voir l'une avec l'autre. si un certain nombre de poètes décident de vanter les actes de grands héros, par exemple militaires, c'est pas simplement pour dire à combien ces gens sont formidables. C'est aussi pour dire combien eux, les poètes qui chantent ces actes, sont formidables, à travers un geste oral puissant. L'épopée parle d'exploit, et elle est un exploit. Alors bien sûr, c'est un exploit verbal, c'est différent d'un exploit militaire. L'épopée, c'est un exploit par son ampleur, par sa complexité. C'est très complexe, la structure de l'Odyssée. Il y a des récits enchâssés, il y a des flashbacks. Bon, on va essayer de ne pas se perdre là-dedans, mais signalons-le quand même. Mais c'est un exploit aussi par son style. Un exploit, c'est pas juste quelque chose de puissant, c'est quelque chose de beau, de noble. Même chez les grands sportifs, par exemple, qui vient de Borg, c'était vraiment le tennisman aristocratique, quoi. C'est le type qui a le style. Et ce style, dans le cas de l'Odyssée, il passe par les formules nobles, il passe par les images puissantes et qui sont même parfois stupéfiantes. C'est vraiment un des grands plaisirs de lire l'Odyssée que de tomber régulièrement sur des formules hallucinantes. Au moment de descendre aux enfers, Ulysse se fait demander « Que viens-tu faire dans ce lieu sans douceur ?» Quelle belle manière d'évoquer l'enfer. Plus tard, par sa nourrice, celle qui l'a élevée, il se fait appeler ce grand absent. Ce grand absent, pour parler d'un type qui est parti il y a 20 ans. C'est formidable. Ce grand absent. Et quelques vers plus loin, alors qu'il a retrouvé toute sa puissance, il est décrit comme éclaboussé de poussière et de sang. Là, on est dans l'exploit verbal. Sortir des formules comme ça, c'est un geste équivalent à celui de la prouesse militaire. Quelques mots maintenant sur cette question de l'héroïsme confronté à l'errance, donc une espèce d'héroïsme critique. L'Odyssée met en présence, à travers le même personnage, l'honneur et les larmes. Il y a là deux apparitions d'Ulysse totalement contrastées, qui sont l'honneur d'un côté et les larmes de l'autre. Qu'est-ce que c'est que ce héros qui est à la fois l'incarnation de l'honneur et qu'on rencontre pleurant? Allons voir page 429, c'est la dernière apparition d'Ulysse dans le texte. Le texte s'arrête page 430, donc c'est l'avant-dernière page de l'édition Madel. L'avant-dernière page, donc la dernière page qui termine sur un durable traité, on verra à quel point ces derniers mots sont capitaux. La page précédente, vous voyez au milieu de la page, Mentor revient, donc la forme que prend Athéna lorsqu'elle se présente aux hommes. Je vais commencer à lire au vers 504. 429 vers 504. Donc là, Ulysse vient tuer les prétendants et il est face à une opposition d'une partie du peuple d'Ithaque qui était fidèle à certains des prétendants, qui vient de trucider. Et il réagit avec ses amis. Voilà ce qui se passe. Ulysse l'endurant eut bien du plaisir à la voir, donc c'est Mentor, c'est Athéna qui revient sous la forme de Mentor, et se retournant vers son fils, il lui dit aussitôt « Télémaque, au moment de te jeter dans la mêlée où se distinguent les meilleurs, garde-toi d'entacher le renom des aïeux, car à travers le monde entier, on a vanté jusqu'à ce jour leur force et leur courage. » Le sage Télémaque alors lui fit cette réponse. « Si tu y tiens, mon père, tu verras que ce cœur-là, pour reprendre tes mots, ne peut pas entacher ta race. » Ravi d'entendre ces propos, Laërte s'écria. « Dieu bon, quel beau jour c'est pour moi et que je suis heureux. Voici mon fils et mon petit-fils faire assaut de courage. » Là, on est dans l'Iliade, en fait. On est dans le déploiement des héros méditerranéens typiques. C'est-à-dire des gens qui ne veulent pas perdre la face et qui se transmettent cette espèce d'impératif psychanalytique puissant de père en fils. Puisque là, on a Laërte, Ulysse, Télémaque. Ce passage, il incarne vraiment le héros d'épopée typique, le héros d'épopée grecque idéal. Un type orgueilleux et qui se transmet cet orgueil de père en fils. Comme si c'était son sang même. Voilà la dernière apparition d'Ulysse. Voilà quelle image Homère nous laisse d'Ulysse pour finir. Allons voir, à contrario, la première intervention d'Ulysse dans l'Odyssée. Page 89 et 92. Il y a deux interventions. Page 89, c'est tout en bas de la page. Donc c'est Hermès qui va le chercher sur l'île de Calypso, où il est retenu prisonnier. Espèce de prison sexuelle, très étrange, sadique, masochiste. Et voilà comment Ulysse nous apparaît après un effet de retardement qui est un vrai suspense hollywoodien. Ce truc s'appelle l'Odyssée, donc l'histoire d'Ulysse, et les premiers chants ne nous parlent que de Télémaque, à tel point qu'on parle de Télémachie, pour parler de cette première séquence de l'Odyssée. Arrivée retardée d'Ulysse, qu'on attend depuis quatre chants. Arrivée retardée où on a cessé d'entendre les louanges du grand héros, du grand roi. Et voilà comment Hermès trouve Ulysse, ou plutôt comment il ne le trouve pas. Il ne trouva pas Ulysse au fond de la caverne. Il pleurait sur le promontoire où il passait ses jours, le cœur brisé de larmes, de soupirs et de tristesse, et promenant ses yeux mouillés sur la mer inféconde. Moi, j'ai pensé, en retrouvant cette scène, à cette séquence du film d'Almodovar, Parle avec elle. Almodovar est le type qui montre tout l'éventail des identités sexuelles, ou presque. Et le héros de Parle avec elle, qui est un beau type, quoi, qui est vraiment le torero, nous apparaît en écoutant Caetano Veloso, qui chante « Coucou, coucou, Paloma ». Et il pleure. Il pleure. C'est vraiment l'archiviril, c'est le taureau qui pleure. Et voilà comment Ulysse nous apparaît. Écho de cette description quelques pages plus loin, page 92. Page 92, tout en haut. Donc là, c'est Calypso qui le cherche pour lui dire « Je vais te libérer ». Quand elle le trouva, il était assis sur la grève, les yeux tout embués et consumant la douce vie à pleurer son retour. Pensez à cette histoire de formule stupéfiante. La nymphe ne le charmait plus. Les nuits, il devait les passer dans la grotte profonde, près d'elle. Il n'aurait pas voulu, c'est elle qui voulait. Formidable passage de dénégation. Le jour, il se tenait assis sur les rocs de la grève, le cœur brisé de larmes, de soupirs et de tristesse, et promenant ses yeux mouillés sur la mer inféconde. On retrouve un exemple de ces formules répétitives, mais ô combien signifiantes. Hein. Et promenant ses yeux mouillés sur la mer inféconde. Il y a une liquéfaction du héros vertical, quoi. Si vous voulez, c'est un pénis qui se répand, quoi. C'est la verticalité virile qui est mise à état liquide. Quelle étrange tension, contraste, entre cette dernière apparition et cette première apparition. À la fin, le héros canonique, viril, fidèle à ses pairs et transmettant l'honneur, cette espèce d'obligation d'excellence, numéro un oblige, comme nous disent les commerciaux, à son fils. Ce héros de l'Iliade, ce héros, je dirais, ennuyeux, heureusement que c'est la dernière scène, et cette première apparition inconsistante. Qu'est-ce qui se passe entre les deux ? Qu'est-ce qui se passe de ces larmes à cette espèce d'héroïsme militaire, solaire ? Ben, il se passe une intrigue qui devrait être sans histoire. Il se passe le générique de mon enfance. Ulysse revient. Vous savez, il y a des gens qui essaient de résumer La recherche du temps perdu et qui disent, c'est vraiment ennuyeux, un homme se souvient de son passé. C'est ça, La recherche du temps perdu. À tel point que les Monty Python, du coup, ils ont créé un genre de sketch où il y a un concours où en une minute, il faut aller le plus loin possible dans le résumé de La recherche du temps perdu. C'est une idée vraiment délicieuse, quoi. Quand les types sont là, it's the story of the guy who remembers his past. Et puis, paf, à un moment, il y a bip, et celui qui est arrivé jusqu'au plus loin, il gagne une espèce de trophée absurde, je sais plus ce que c'est, la moustache de Proust. Ou... Bon, si on résume l'Odyssée, c'est pas grand chose. Ulysse revient. Voyage retour. Sauf que, ce retour ne va pas de lui-même. C'est l'impossibilité de retrouver son foyer qui prive lui ses forces dans la scène qu'on vient de voir. Il est bloqué chez Calypso, où il a été mis au banc par les dieux, pour des raisons qu'on détaillera plus tard. Et c'est à travers les lentes retrouvailles avec son foyer, avec cette île mythique d'Ithaque, qu'il va retrouver toute sa force. Comment est-ce qu'on fait pour construire un récit aussi puissant avec une trame aussi pauvre ? Ulysse revient. Eh bien, on alterne de l'héroïsme et de l'errance. Et puis, on fait le pari très audacieux de leur superposition à un moment. L'héroïsme a à voir avec l'errance. C'est-à-dire, un héros canonique, Ulysse laisse en conteste. Il mérite sa réputation de grand chef, d'homme courageux, etc. Il reconduit certains attendus du personnage épique avec brio. Il affronte des monstres, que ce soit sur Terre, avec le Cyclope, campement tellement déterminant pour la suite de son histoire, ou sur mer, Charybde et Scylla, le fameux Charybde et Scylla, dont les journalistes ont fait une expression célèbre. Bon, donc il affronte des monstres, ça c'est vraiment un truc de héros épique, quoi. Il a une force physique hors du commun. C'est le seul à arriver à tendre son arc quand il rentre chez lui, finalement. Les prétendants, aussi nombreux soient-ils, n'y arrivent pas, alors que ce sont les meilleurs d'Ithaque. Impossible de tendre l'arc d'Ulysse. Et on fait également d'Ulysse le champion d'une force plus spécifique, une force mentale, la ruse, ou plus précisément ce mot grec qui est difficilement traduisible et qui s'appelle la métis. M-E accent grave, T-I-S. La métis. C'est-à-dire, bon, il y a des livres entiers là-dessus, je vous donne juste quelques pistes. Jean-Pierre Vernant a écrit des pages très puissantes sur la question de la métisse, par exemple. Jean-Pierre Vernant, grand spécialiste de la culture grecque. La métisse, c'est une sorte d'aptitude, quand on y pense, très difficile, à se mettre à la place de l'autre pour percevoir ses failles, et ainsi à trouver les stratagèmes adaptés pour le battre. La métisse, c'est le contraire de l'affrontement direct, du bourrinage. C'est le stratagème, par exemple, et c'est là qu'Ulysse est l'homme inventif, évoqué dans le premier vers. Ulysse sait qu'il ne peut pas revenir frontalement chez lui. Il sait qu'il y a 50 prétendants qui sont prêts à lui sauter dessus, s'il se présente comme Ulysse. Il sait que le choc frontal ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il va faire ? Sur le conseil d'Athéna, bien sûr. Il se déguise en mendiant, parce qu'il anticipe sur la réaction aristocratique des prétendants, qui vont par mépris, disons, de classe, laisser entrer ce pauvre air dans un palais. On laisse entrer un clochard dans un palais quand on est un noble de l'île d'Ithaque. Mais oui, voyons, on se moque de lui, mais on le laisse entrer. Ulysse a anticipé sur ce trait de l'ennemi pour mieux arriver à ses fins. Et pourtant, ce héros qui est donc bien né, c'est un noble, qui est courageux, qui est fort, qui est astucieux, ce puissant va affronter l'impuissance, qui prend diverses formes dans le récit. Au moment là où on l'a rencontré dans cette scène de pleurs, l'impuissance est un blocage. C'est ainsi qu'elle se manifeste pour commencer. Calypso est une déesse amoureuse possessive qui le choisit et qui le retient. On voit bien qu'il y a une hésitation chez lui. C'est elle qui voulait qu'on passe la nuit ensemble. Et c'est sur l'ordre des dieux que Calypso agit ainsi. L'homme d'action ne peut pas agir. Qu'est-ce qu'il fait ? Il pleure. C'est QFD, quoi. Je ne pense pas que ce soit la virilité qu'il faille interroger à travers les pleurs. Chez Almodovar, oui. C'est la virilité qui est mise en question par les pleurs du héros. Et c'est une tension intéressante. Un grec surviril, doit pleurer dans certaines occasions. Et on verra lesquelles. C'est pour ça que l'Odyssée, de même que l'Iliade, mais d'une façon plus subtile, me semble être un véritable traité de bonne manière de l'aristocrate. L'Odyssée nous montre quand est-ce qu'il faut pleurer. Et effectivement, pour un héros grec, pour un roi grec loin de chez lui et qui ne peut pas rentrer, ce serait ne pas pleurer qui serait inconvenant. Les pleurs ne viennent pas remettre en question le modèle du héros par sa virilité. Elles viennent montrer que l'homme d'action est tout de suite montré, est tout de suite mis en scène, comme ne pouvant pas agir. Et c'est ça qui critique le modèle qui était présent dans l'Iliade. Donc les dieux vont faire poids sur Calypso pour qu'elle libère Ulysse. C'est Poséidon, en fait, qui veut qu'Ulysse soit puni. On verra pourquoi, la prochaine fois surtout. Et donc les dieux se mettent d'accord avec lui, ils chargent Calypso de faire la gardienne érotique. Mais elle finit par le libérer, parce que les dieux finissent par se dire « Bon, Poséidon, il est bien gentil, mais là, c'est bon, ça suffit. » Et après quelques péripéties, Ulysse arrive chez les Phéaciens. Et c'est là, en fait, qu'on découvre tous ses malheurs préalables, entre le moment où il est parti de Troie et le moment où il a été fait prisonnier chez Calypso. La prison Calypso n'est pas du tout la première tuile qui lui tombe dessus. Entre Troie et l'île de Calypso, au Gigi, il lui arrive toutes sortes de mésaventures où on retrouve le motif récurrent de la dérive. Et c'est là que ça m'intéresse. En raison de deux types d'interventions surhumaines qui sont en fait difficiles à distinguer chez les Grecs, les dieux et les éléments. Ulysse essaie de rentrer chez lui en bateau, Ulysse revient, sauf que Zeus, Éole et surtout Poséidon, et sauf que les vents, la mer démontée, qui sont sans cesse miroirs de l'un et de l'autre. Il n'y a pas de tempête sans un dieu et il n'y a pas de dieu sans tempête. Je vous lis un passage, page 151. Donc on est au début des chants où Ulysse commence à raconter son histoire. Il va faire ça pendant 4 chants, c'est très long. Il est au banquet des Phéaciens, ce peuple si cultivé, si grec, au fond on verra, qui l'accueille dans ses malheurs, et il raconte l'une de ses mésaventures, juste après le départ de Troie. C'est le vers, c'est bien, c'est pratique avec les vers, le vers 67 commence par Zeus. Zeus, maître des nuages, lança contre nous Borée et ses terribles ouragans. Il noya sous les nues le rivage et la mer. Du haut du ciel tomba la nuit, etc., etc. Et à la fin de ce paragraphe, disons, « Mais la houle et Borée, au moment de doubler Malée, devaient me faire dévier au-delà de Cythère. » La fameuse île de Cythère. « Alors, pendant 9 jours, des vents funestes m'emportèrent sur la mer aux poissons. » Retenons ce verbe « me faire dévier ».« Me faire dévier ». Et allons voir, page 225, là c'est la fin de ses aventures qui le mènent sur l'île de Calypso, au vers 447, cette fois, le début de la dernière petite strophe. Voilà comment il arrive sur l'île de Calypso, sur Ogygie. 9 jours durant, je dérivais. Je dérivais. Me faire dévier, je dérivais. Voilà le premier verbe de la première mésaventure, le dernier verbe de la dernière mésaventure. C'est là que la mer est le personnage principal de l'Odyssée. La mer, c'est ce lieu risqué d'une glissade catastrophique et involontaire. C'est un lieu de glissade, c'est un lieu où la marche n'existe plus comme manière rationnelle d'aller d'un point A à un point B. C'est là qu'on rencontre cette amplification géante du motif de la mer dangereuse, qui est présent dans toute épopée, mais de façon normalement beaucoup plus passagère. Ici, la mer, c'est vraiment l'inconnu, le lieu des forces inconnues, et l'impuissance incarnée. Alors je vous disais, voilà, comment on construit à partir d'un scénario aussi maigrelet. Homère s'est dit un matin, tiens, je vais raconter l'histoire d'Ulysse qui revient. Voilà comment on construit des monstres un arc qu'on arrive à tendre, etc. Et puis, la dérive, la quille partie, le bateau éclaté. Combien de naufrages dans l'Odyssée ? Mais il n'y a peut-être pas seulement une alternance entre l'héroïsme et l'errance. Il y a peut-être, au bout du compte, une superposition des deux choses. Et c'est là qu'il y a une nouvelle proposition par rapport à l'Iliade, qui nous disait « L'héroïsme, c'est l'acte. C'est l'acte, c'est l'action violente de conquête, aussi astucieuse soit-elle, voire le cheval de Troie. » L'Odyssée nous dit « À force d'errance, peut-être que l'héroïsme véritable, c'est de supporter l'errance. C'est de tenir bon dans l'errance. L'héroïsme ultime, c'est d'être errant. C'est de supporter de ne rien faire. C'est d'être le clochard d'Ithaque. Mettre un héros de l'action en situation de ne rien faire, il y a un autre grand personnage de la culture européenne, disons, qui se caractérise par ce moment d'inaction, et dont je vous ai déjà souvent parlé ici parce que c'est un personnage qui me fascine, c'est Perceval, le Perceval de Chrétien de Troyes. C'est Perceval, accroché, parce qu'il n'a plus que ça, à sa lance plantée dans le sol, qui bloque, il n'y a pas d'autre mot, qui s'extasie devant le sang des oies sauvages sur la neige, et qui reste en stase, qui reste dans le rien pendant des heures, alors que 50 mètres plus loin, il y a le camp d'Arthur qui vient voir Arthur, et que ça ne se fait pas du tout de s'arrêter à 50 mètres du camp du roi. Et Perceval reste infiniment absorbé dans cette image parce qu'il y voit, alors c'est une stase là qui est différente de celle d'Ulysse, un rien faire qui est différent de celui d'Ulysse, puisque Perceval est dans l'euphorie. Il croit voir la peau de la femme qu'il aime dans cette rencontre du blanc et du rouge. Il croit voir ce visage. Chez Ulysse, le rien faire est hyper douloureux, dépressif. Et c'est plutôt à cet héroïsme-là, celui de l'humiliation achevée, qui va au plus bas de l'humanité, que nous confronte curieusement l'actualité méditerranéenne aujourd'hui. Mais Ulysse a pour lui, pour tenir bon dans cette aventure ultime du rien faire, ou du devoir laisser faire, du devoir dériver, un véritable pouvoir, c'est sa voix. Sa voix ne lui fait jamais défaut. Même si son bras peut devenir impuissant face à l'ouragan, face au dieu déchaîné, sa voix est toujours solide. Et cela nous renvoie au principe même de ce qui fait l'épopée, de l'énonciation épique, c'est-à-dire le chant. Le chant, tel qu'il est présenté dans l'Odyssée, il peut sauver un roi clochard. Mais il peut aussi tuer, condamner. Et donc la question que nous pose l'Odyssée en dernier recours pour aujourd'hui, en dernier ressort, c'est celle-là, qu'est-ce qu'une bonne voix ? Qu'est-ce qu'une bonne voix ? VOIX. C'est le dernier point que je voudrais qu'on traite de façon comme ça surplombante avant de plonger dans la matière technique du texte. Qu'est-ce qu'une bonne voix ? L'Odyssée s'ouvre, on l'oublie parce que c'est le premier vers, mais s'ouvre sur un dire. Muse, dis-moi l'homme inventif qui erra si longtemps, etc. Quel étrange commencement. Pourquoi ? Parce qu'il semblerait que le narrateur n'assume pas la narration. Il dit, s'il te plaît, à une instance supérieure, s'il te plaît, raconte-moi l'histoire d'Ulysse. Mais en fait, c'est lui qui va la raconter. Jamais la muse ne va dire, très bien, voici l'histoire d'Ulysse. Non. C'est finalement ce narrateur qui fait appel à une instance supérieure pour qu'elle lui raconte l'histoire d'Ulysse qui va le faire. Mais au préalable, il aura fait cette demande. L'Odyssée s'ouvre sur la demande d'un dire, et d'un dire supérieur, épique, aristocratique, divin. C'est très différent de « Il était une fois », où un narrateur assume explicitement la narration. L'Odyssée semble nous dire « Je vous raconte ce que la muse me dirait si elle accédait à ma requête de me dire ce que je lui demande. » Vous m'avez suivi ? Ça, vous n'êtes pas obligé de le noter. Est-ce que c'est une coquetterie du 8e siècle avant Jésus-Christ ? Est-ce que c'est une simple formule ? C'est difficile à dire, mais en tout cas, c'est clairement une façon de mettre en scène un texte comme venant d'une parole, et d'une parole haute, en la dédoublant, en disant « Je suis celui qui parle au nom d'eux. Je dis ce que la muse me dira peut-être, si elle accède à ma demande. » Donc c'est mettre dès l'orée du texte, le tout début, un lien très fort entre voix narrative et politesse sacrée. Il y a des choses à faire avec les dieux, y compris au niveau de la prise de parole. L'inspiration à la lettre se présente comme un souffle. Le mot « inspiration » dit qu'il y aurait un souffle verbal supérieur, comme dans la Bible du reste. Ici, il s'agit, je trouve, de quelque chose de plus concret et de plus contractuel, de plus juridique presque. Voilà, je te demande le droit de parler pour toi. Je trouve que le terme d'inspiration ici ne dit pas exactement ce qui se passe, même si c'est vrai qu'on rejoint ce thème. Mais à cette orée, je crois qu'il faut bien questionner cette question de comment la parole est déléguée. Et le thème de l'inspiration, on pourrait dire ici que c'est ça qui se passe. Muse, donne-moi l'inspiration. En parlant vite, c'est ça qui se passe. Sauf que si on regarde dans le détail, il ne s'agit pas d'un souffle qui est donné. Il s'agit d'un droit de formuler les choses. Si j'essaie de faire la somme de cette introduction, qui vous le reconnaîtrez, est assez complexe. Qu'est-ce qui se passe? C'est un signe que la voix doit être utilisée d'une certaine façon pour être bien utilisée. Visiblement, il y a une manière de bien faire pour prendre la parole. Une manière rituelle. Or, si cette mise en scène de la voix est la première dans l'Odyssée, c'est certainement pas la seule. Il y en a beaucoup, et je vais retenir deux pôles extrêmes dans ces représentations de l'usage de la voix à l'intérieur du texte. Deux pôles extrêmes, et ensuite la voix d'Ulysse lui-même. Le premier pôle que je voudrais garder, c'est celui du personnage de Laède, Démodocos, au banquet des Phéaciens. Il y a, dans le récit lui-même, l'apparition d'un personnage qui fait le même métier que celui qui est en train de raconter, Homère. Il y a un Laède dans le texte, qui chante un truc assez agréable sur la fidélité, tiens donc. C'est quand même l'une des grandes affaires de l'Odyssée. Alors, ça par ailleurs, en tout cas, tenons-nous-en à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Et voilà ce que dit Ulysse, page 149, à propos de cet Laède. Page 149, c'est le début du chant 9. Alors Ulysse l'a visé, lui fit cette réponse. « Alcinoos, le roi des Phéaciens. Puissant Alcinoos, gloire et honneur de tout ce peuple, il n'est vraiment rien de plus beau que d'ouïr un Laède, pareil à celui-ci, que sa parole égale aux dieux. Oui, je le dis bien, il n'est point de meilleure vie que lorsqu'un peuple entier se laisse entraîner par la joie, que les convives dans la salle, assis en longue file, écoutent le chanteur devant des tables bien garnies de viande et de pain, et que puisant dans le cratère, donc le verre, les chansons viennent offrir le vin versé dans chaque coupe. Voilà quelle est, à mon avis, la chose la plus belle. » Voilà quand même ce qu'on appelle un éloge superlatif. Qu'est-ce que je retiens de ce passage? Qu'est-ce qu'une voix bonne? Puisque manifestement Ulysse nous dit ça. Cette voix, celle de Laède, c'est la voix bonne. Ulysse l'a visée, donc c'est quand même pas un type qui raconte des calembres d'aide. La voix bonne, c'est celle qui réjouit un peuple. Voilà ce qu'il nous dit. C'est très drôle, cette intervention. Ça doit être le mot ethnos, je pense. J'ai pas pu vérifier dans le texte grec. La voix de Laède unit le peuple. Vous vous rendez compte? On n'est pas à l'époque où les États sont des choses bien constituées avec des polices, des écoles, des armées, et tout ça. On est à l'époque de cités qui essayent d'un petit peu s'unir, quoi. Il n'y a pas plus que ça. Or, le chant de Laède provoque une euphorie politique. Non seulement on est ensemble, mais on est bien ensemble. C'est un chant d'union. Par les temps qui courent, ça fait du bien. Parce que par les temps qui courent, on est plutôt face aux sirènes. Allons voir page 212. Les sirènes, l'autre pôle dont je voudrais vous parler. Avant qu'il reprenne une énième fois son périple, Ulysse est prévenu par Circé, qui lui dit en gros, t'es pas couché, quoi. Chant 12, page 212. On dirait une formule épique pour retenir ce que je veux dire. La divine Circé me parlait en ces termes. Voilà donc une chose faite, écoute maintenant ce qui va suivre. L'Odyssée n'arrête pas de faire ça, de dire, je suis du discours en train de se faire, et voilà. Un dieu d'ailleurs te le rappellera. Tu passeras d'abord près des sirènes, dont la voix charme tous les humains qui se présentent devant elle. Mais bien fou qui s'approche et prête l'oreille à leur chant. Il ne verra jamais plus sa femme et ses enfants faire un grand cercle autour de lui et fêter son retour. Quelle jolie formule. Je vois ma fille courir autour de mes jambes. Les sirènes le charment de leur voix mélodieuse, assises dans un pré, et l'on voit traîner autour d'elles les os des corps décomposés dont les peaux se dessèchent. Passe sans t'arrêter, bouche l'oreille de tes gens avec de la cire de miel pétrie, afin que nul d'entre eux n'entende. Écoute, toi, si tu en as envie. Privilège aristocratique. Mais fais-toi lier pieds et mains dans ton vaisseau rapide, debout sur l'emplanture et le corps enchaîné au mât, pour goûter le plaisir d'entendre la voix des sirènes. Et si tu priais et pressais tes gens de tout défaire, qu'ils ajoutent d'autres liens pour mieux te ligoter. Le ligotage, c'est un truc bien connu. Ce que j'ai redécouvert, moi, en revenant sur cette scène, c'est à quel point le chant des sirènes fait l'inverse du chant de Laède. Le chant de Laède rassemble, celui des sirènes isole un individu au plus loin, jusqu'à lui faire oublier femme et enfant. Non seulement il n'est plus dans la pensée politique, qui est pourtant ce qui obsède la plupart des Grecs, mais il n'est même plus dans la considération de la famille. Par pur plaisir, il va tout quitter, y compris sa vie. Le chant des sirènes est celui qui nous sort de la communauté. Le plaisir y est une pure tromperie individuelle. Le chant de Laède dit la vérité d'une émotion collective. Le chant des sirènes ment pour faire mourir des individus. Voilà deux usages, vous l'admettrez, diamétralement opposés de la voix. Et voilà qui va nous aider à mieux saisir ce qui fait la voix d'Ulysse. Puisqu'Ulysse, c'est une voix. On loue sa force physique, on loue son courage, on loue sa fidélité, même si Calypso, bon, on ne sait pas tout. Mais ce qui revient le plus couramment, c'est sans doute la qualité de son discours. Un discours qui est à la fois loué comme beau, comme vrai et comme astucieux. La métisse. Je vous lis rapidement la réaction du public lorsqu'il se tait au bout des nombreux chants où il raconte ses aventures aux Phéaciens, début du chant 13. À ces mots, ils restèrent tous silencieux et quoi, subjugués qu'ils étaient dans l'ombre de la grande salle. Parce qu'évidemment, tout ça se passe un peu dans la pénombre et les enseignes. Ulysse ne chante pas, ça n'est pas un aège. Mais il se substitue à Démodocos et il prend la parole bien plus longtemps que lui. Démodocos nous raconte cette fablette pendant 3 ou 4 pages où on voit le pauvre Héphaïstos trahi par la belle Aphrodite. Ulysse chante, ou plutôt parle, chante. Je prêche Gesang, je ne sais pas exactement ce qu'Homère aurait dit, mais pendant 4 chants entiers, du chant 9 au chant 13. Voilà donc une mise en abîme de la parole du premier vers. Muse, dis-moi, paf, moi le narrateur, je raconte, et paf, à un moment, c'est Ulysse qui prend le relais. Or, en théorie, la voix d'Ulysse se doit d'exprimer la même chose que celle de l'Aède, c'est-à-dire une unité, vérité, politique. Ulysse est un roi. Le roi, c'est la figure de l'union politique. C'est celui qui, à un moment, met tout le monde d'accord pour qu'on se soumette, pour qu'on obéisse. Et il ne le fait certainement pas seulement par la force de son bras. Mais, dans l'Odyssée, cette posture royale ne va plus d'elle-même. Ulysse est loin de chez lui et depuis longtemps. Et ce qui m'intéresse, c'est que, dans les derniers chants, lorsqu'il a cessé de raconter son histoire aux Phéaciens et qu'enfin il peut retourner à Ithaque, Ulysse n'hésite pas à recourir aux instruments des sirènes. Il va tromper, il va ruser, même si c'est pour reconquérir l'unité politique qui fait la propriété du chant de la Hèbe. L'exemple le plus saillant, c'est évidemment ce retour à Ithaque comme mendiant. À 2 reprises principales, Ulysse va raconter des calembres d'aines à ceux qui lui demandent « Qui es-tu ?» Il avait répondu « Personne » au Cyclope, mais cette fois il va répondre bien d'autres choses. Il va broder quand Eumée, le porcher, dont on parlera beaucoup la prochaine fois, lui demande « Qui es-tu ?» Un flot lui vient de paroles qui ne sont pas vraies. Et à sa femme même, dans un face-à-face extrêmement étrange, il retrouve Pénélope, il faut qu'il cache ses émotions, vous imaginez, il ne l'a pas vue depuis des années. Elle lui dit « Qui es-tu ?» et il lui dit « Pas moi, et pas celui qui t'aime. Il doit mentir s'il veut avoir une chance de vraiment pouvoir la retrouver. » Donc cette tromperie, elle est bien verbale. Même si ça se manifeste d'abord par une sorte de mise en scène de vêture, de quasi-maquillage que lui fait Athéna en transformant son apparence, sauf qu'elle n'enlève pas cette blessure de sanglier qui m'intéresse tant et qui va quasiment le trahir. Mais cette tromperie verbale, elle offre justement à Ulysse l'opportunité de retrouver le cœur de la politique, c'est-à-dire de réinvestir son palais, le lieu de l'union politique. Et remarquons, ça c'est un des détails qui m'a fasciné en relisant l'Odyssée, remarquons que c'est le symétrique de la stratégie qui a permis de faire tomber Troie dans l'Iliade, grâce au fameux cheval. Scène qui n'était pas mentionnée dans l'Iliade. Cette scène, elle est inventée par Homère dans l'Odyssée, à propos de l'Iliade. Comme s'il fallait effectivement mettre en regard dans le même bouquin ce qui s'est passé à Troie et ce qui se passe dans le palais. Dans les deux cas, qu'est-ce qui s'est passé? Cette idée géniale, un assaut de l'intérieur. Une conception de la guerre astucieuse au plus haut point. On évite le choc frontal, on évite la violence pure, la bestialité. D'abord, on intègre le centre en se faisant passer pour ce qu'on n'est pas, un cheval cadeau ou un clochard, et ensuite, bam, là, ok, on lance les éclairs. Mais c'est au prix d'un massacre bien moindre. Les théoriciens des dommages collatéraux feraient bien de rejeter un œil aux stratégies politiques d'Ulysse, parce que de dommages collatéraux, il n'y a pas. Aucun sang versé par des innocents, vous le remarquerez. Assaillir du dedans, incarnation géniale de ce que ces Grecs si fascinants appellent la métisse. Si je me résume sur cette question de la voix, et puis pour en finir avec ma proposition d'interprétation, voilà ce que semble être la bonne voix pour le narrateur de l'Odyssée. Une voix qui trompe avec mesure. Mais, me direz-vous, quel est l'étalon de cette mesure? Qui décide de la frontière où cette tromperie est légitime et du stade où elle bascule dans des méthodes de sirène? Eh bien, pour essayer de déterminer, il faudra essayer de nous mettre à la place d'un Achéen. à la place d'un grec, faire cette démarche anthropologique, d'aller rencontrer une autre vision du monde que la nôtre. Et ce sera précisément l'objet de ma prochaine interprétation. Je voudrais qu'on essaye de voir à travers l'Odyssée quel code de bonne manière, ou plus sérieusement peut-être quel code moral nous est montré par l'Odyssée. On pourrait envisager l'Odyssée comme un véritable roman à thèse, que je crois en fait sont tous les romans, contrairement à ce que la tradition veut bien dire, qu'un roman à thèse est un mauvais roman. Je pense que tous les romans sont des romans à thèse. La question, c'est de savoir comment cette thèse nous est offerte, nous est transmise. Évidemment, si elle l'est avec lourdeur et solennité, on n'y croit pas une seule seconde, mais dans le cas de l'Odyssée, c'est très manifeste, on est absolument charmé par un récit qui pourtant nous transmet sans cesse des informations d'ordre moral. Des informations sur ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire pour être quelqu'un de bon. Et évidemment, il y a aussi tout le charme qu'il y a à raconter ce qu'est le bien en nous montrant tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est le paradoxe des liaisons dangereuses dont Chaudarlot de la Flotte disait qu'il l'avait écrit pour montrer aux jeunes gens ce qu'il ne fallait pas faire, mais tout en faisant notre délice et bien davantage.